Brésil par Django Reinhardt et le quintet du Hot Club de France. Et dans quelques instants, Champion des ondes.
Vous êtes bien sur Champion des ondes, votre émission sport qui va démarrer tout de suite. Donc ce soir, une émission un petit peu spéciale parce que je ne suis pas tout seul. Et oui, on a un tout nouvel invité. Maxime, comment vas-tu ?
Ça va et toi, Malo ?
Bah écoute, plutôt bien. On se retrouve depuis, ça fait je crois 2 semaines que l'émission n'a pas eu lieu. Donc tu vois, le temps de redémarrer tranquillement, le temps de tout mettre. Malheureusement, on n'a pas notre jingle, mais il va revenir, ne vous inquiétez pas. Ce soir, de quoi est-ce qu'on va parler ? De foot, de basket, j'en perds même mes mots. L'OLB, l'USO, tout ça, un programme très chargé. Tu étais notamment à plusieurs matchs. J'imagine que ton week-end était aussi très rude.
Oui, très rude. Mmh. J'étais vendredi au match de l'USO contre Quevilly.
Ok.
Ouais. Et il y a 2 semaines, j'étais au Septor. Grand.
Septors, et oui, on en viendra justement de toutes ces belles performances un petit peu partout. On va démarrer notamment cette émission Champion des ondes, ne vous inquiétez pas, Pierre, Guillaume reviendront très bientôt, la prochaine émission qui sera dans 2 semaines. Faut qu'on voit aussi, parce que vous le savez, c'est pas la même chose pour toutes les émissions qui sont ici sur Radio Campus Orléans. On va avoir un problème de timing lié forcément à la fin des matchs. Maxime, tu le sais très bien autant que moi. Qu'est-ce qui va se passer après l'USO, après les Septors ? Il va forcément avoir une émission spéciale. On va essayer même de faire des petites choses sur les derniers matchs, je pense. On ne peut pas trop vous en dire, mais ne vous inquiétez pas. On vous prépare quelques petites émissions. Il y aura donc aussi une dernière émission pour faire forcément des récaps, peut-être avec des invités. Je pense notamment aux Gladiators, en fonction de la fin de saison des Septors, qui peuvent aussi jouer les playoffs, parce que oui, nous, on est des gens qui espèrent beaucoup, et on va croiser les doigts jusqu'à la fin pour cette première place. J'imagine que toi aussi, Maxime.
Oui, bien sûr.
Ouais, forcément.
Avec les matchs qu'on a eus, ces derniers matchs-là. Donc,
Ça nous redonne espoir. Et oui, les Septors, donc ça, on va attendre forcément la fin de saison. C'est pas lié avec nous, mais si les Septors montent directement, on aura malheureusement... Et heureusement, j'allais dire malheureusement pour notre émission, mais pas de match de play-off. On aura le RCO un petit peu, mais pareil, ça va se terminer très vite. On en reparlera dans notre récap. Donc c'est pour ça, on est un petit peu happé sur les derniers résultats de chacun. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un club qui nous lâche pas. Jusqu'au bout, ce club, je pense qu'il nous aime. Il se saborde tout seul. Et évidemment, je pense à nos 5 basketteurs de l'OLB, notre 5 majeur qui n'est plus trop majeur, de moins en moins en tout cas. C'est quand même le 3e, enfin 3 meneurs de jeu sont rentrés dans l'équipe au cours de la saison. Autant vous dire que c'est une équipe qui va mal, qui est malade. Mais heureusement, on a appris la news, la grande nouvelle. Je dis news parce que je me mets un petit peu à la place des 3 Américains qui devraient prochainement entrer au capital de l'Orléans Loiret Basket, l'OLB. L'entrée au capital du club donc est aujourd'hui détenue par la ville d'Orléans. Dans un premier temps, la société détenue conjointement par les 3 investisseurs doivent acquérir 45% des actions dès cette année. Donc à voir comment ça se passe avec la fin de saison. Les hommes d'affaires doivent aussi signer un contrat de licence portant sur le droit d'exploiter, d'utiliser et de commercialiser la marque du club sur l'ensemble du territoire nord-américain. C'est très important de préciser. Tous ceux qui sont au sud ne pourront pas parler de l'OLB, malheureusement. Et oui, c'est terrible. Évidemment, c'est une petite blague, mais c'est pour montrer aussi à quel point c'est difficile juridiquement de faire valider ces opérations-là. Donc pour l'instant, ça reste uniquement le territoire nord-américain. Pour une durée de 5 ans, renouvelable, bien évidemment, contre un montant total de 4,5 millions d'euros. Alors, dans le cadre de cette opération, l'OLB percevra au total 1,2 million d'euros sans restitution possible d'ici la fin de l'année. Ça veut dire que ça va rester dans les comptes du club. Hein. Le club voilà, va avoir ses 1,2 million d'euros. Et à partir d'avril 2027, les investisseurs devraient poursuivre leur engagement. Donc c'est ce qui a été signé en portant leur participation. Et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. À 80% du capital, ce qui actera donc la privatisation de l'OLB. Au total, c'est donc Ben Jenkins, Matt Hong et Jamie Saninovich via leur société JHZ OLB, c'est fou, on le retrouve même dans le nom, oui. Holdings LLC, qui vont s'engager à investir 6,6 millions d'euros sur 5 ans, en plus du prix d'acquisition des actions qu'on a rappelé à 1,2 million d'euros. Ça porte cet investissement donc aux alentours de 8 millions d'euros. Selon la Ligue nationale de basketball, la LNB, le budget actuel du club s'élève à un peu plus de 5,2 millions. C'est le deuxième plus élevé en Elite 2. Malheureusement, l'OLB n'est pas deuxième du championnat, loin de là. Donc comme quoi, ça ne veut pas tout dire. Mais très important, la ville d'Orléans restera tout de même un partenaire majeur du club et la subvention de 1,2 million d'euros restera donc bien évidemment. Les trois hommes se sont fait connaître grâce à leur investissement dans le monde du sport américain, notamment grâce à des supervisions de droits médias et de marketing. Maxime, je te lance tout de suite. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette grosse info donc, de la semaine dernière?
Alors, bien sûr, c'était assez surprenant parce que c'est arrivé d'un coup sans réelles informations.
C'est France Télévisions, oui. France 3 Région qui l'a sorti en premier sur son site France Bleu, donc qui s'est renommé Ici Orléans. Mais c'est vrai qu'on l'avait pas vu venir.
Non, on l'avait pas vu venir. Mais ça en parle depuis déjà une dizaine d'années que la ville, le club voulaient des actionnaires. Parce que la mairie n'avait pas assez d'argent forcément pour permettre au club d'avancer, de monter, etc.
Un vrai projet, en tout cas, oui, c'est ce qu'a annoncé Serge Grouard, hein, oui. Maire de réélu en tout cas d'Orléans. Son objectif, c'est de voir cette équipe de basket grandir. L'objectif des Américains, et là, on en a l'habitude, si on reprend même dans le monde du football, arriver avec des grands sabots et dire... D'ici 5 ans, mon objectif, c'est jouer l'Europe. Voilà, c'est toujours ce qui est annoncé. C'est jamais ce qui arrive forcément. Oui. Donc, comment tu perçois ça, toi ? T'es plutôt confiant là-dessus ?
Pas mal de doutes au début. Après, là, j'ai vu qu'il s'était engagé, donc normalement, sur l'année prochaine et sur 4 ans.
C'est 5 ans.
5 ans. Les actionnaires devraient continuer à mettre de l'argent, donc sur ça pas de doute. Après, est-ce qu'ils vont renouveler,
est-ce que ça va durer,
est-ce qu'ils vont partir si l'OLB n'obtient pas les résultats qu'on espère pour ce club, est-ce que ça va perdurer, je sais pas.
Puis la grande question, ça va être leur amour pour ce club. Alors d'après ce qu'on a cru comprendre, ce sont du coup depuis déjà 2-3 ans que ces trois investisseurs qui se connaissent depuis très longtemps, parce que dans le groupe, il y en a deux qui sont meilleurs amis, qui ont même été colocataires très jeunes. Il y en a un troisième qui est un meilleur ami d'un des deux, donc voilà, je vous passe les détails de Friends, mais c'est un peu ça le tabloïd de cette romance. Donc ce sont trois personnes qui se connaissent extrêmement bien depuis plus de 10 ans, qui ont fait des investissements aux États-Unis. Ça a l'air d'avoir marché, j'imagine. Oui. Et donc, ils voulaient investir en Europe sur une équipe de foot ou de basket. C'est ce qu'ils ont annoncé parce qu'ils sont venus lors du dernier match contre Chaland. Donc, on en reparlera un petit peu après. Oui. Mais donc, ils ont pu faire une conférence de presse. Et donc, ils ont forcément parlé de leur idylle, entre guillemets. Et il y avait cette envie d'investir en France. La Ligue nationale de basket a proposé Orléans. Ça fait un an et demi qu'ils suivent ce club. Et donc, nous, on est très contents qu'ils nous aient choisi.
C'est sûr. Vas-y.
Non, mais j'allais dire, justement, heureux d'Orléans, surtout oui. Avec cette grande salle.
Oui, bien sûr. En plus, avec le Comet rempli à chaque match, avec l'une des plus belles audiences de France.
On a plus de 8000 spectateurs
à chaque match. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est très intéressant. Après, j'avais aussi quelques doutes sur l'utilisation de la marque de l'OLB au niveau du nord de l'Amérique. Est-ce que ça va,
ça, je pense que ça va les intéresser? Des questions papier, de toute façon, à partir du moment où t'es pas implanté avant, je pense que du coup t'as rien à perdre.
Non.
Mais oui, je pense que c'est plus d'un point de vue juridique. Quand on parlait de ça, c'était un peu plus drôle. Mais au-delà de ça, je pense que c'est l'aspect sportif. Enfin, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un chat noir quand même à Orléans. On l'a vu cette année. Quand tu es premier et en tout cas deuxième et que tu te bats avec Blois et que depuis, ça fait quoi ? Ça fait un mois et demi que l'OLB met pas un pied devant l'autre. J'imagine que c'est compliqué, quoi.
Oui, bien sûr, c'est compliqué. Là, les derniers résultats sont vraiment pas encourageants. Une victoire dimanche, mais bon, c'était contre le dernier. Ça a été serré, donc... assez compliqué ces derniers résultats de l'OLB.
Et tu penses vraiment, à titre personnel, que Orléans peut venir, devenir plutôt, j'allais dire redevenir, mais même pas, juste devenir une terre de basket européen ?
Tout de suite, non. Dans 4-5 ans, à voir en fonction des arrivées des joueurs. Si ça se trouve, ils vont faire des magnifiques play-offs sur cette fin de saison et on l'espère.
On va croiser les doigts pour eux, mais
on y croit très peu. Mais je pense que dans quelques années, ça peut le faire avec cet argent mis par les Américains chaque année. Pourquoi pas ? On ne peut que l'espérer.
Donc on va croiser les doigts pour l'OLB. Donc on va suivre également la saison prochaine. Alors oui, on est un petit peu taquin sur l'Orléans-Loiret Basket. Il faut savoir qu'en début de saison, il faudrait qu'on retrouve ces audios-là, on avait fait des pronostics. Et j'aimerais bien qu'on retrouve ces pronostics. Mais je pense que les trois, on était quasiment assez sûrs pour se dire ouais, l'OLB cette année, c'est un ou deux, c'est sûr et certain. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont monter directement. La grande question autour des playoffs, parce que c'est ça où, on a pas mal de doutes, dans le sens où il y a l'avant-dernier de première division d'élite qui redescend aux playoffs. L'année dernière, c'était un club, je m'en rappelle même plus, qui est dernier cette année d'élite, j'ai oublié le nom, qui a mis un investissement massif avant cette phase de play-off, pour recruter des joueurs très bons, en tout cas niveau élite, qui ont littéralement roulé sur tout le monde, dont l'OLB la saison dernière. Et c'est vrai que du coup, sans cet investissement-là, on ne sait pas ce que valent les équipes d'élite comparées aux équipes d'élite 2. Donc même si Orléans n'est pas dans la meilleure posture en élite 2, il y a de grandes chances que le deuxième du championnat de deuxième division ne passe même pas contre l'avant-dernier du championnat d'élite. Donc c'est pour ça que les play-offs, on en parle avec des pincettes, dans le sens où je pense qu'il y a plus de chances de repartir game one, même des playoffs, et rentrer à la maison. Heureusement, ils habiteront pas très loin, quoi.
C'est ça.
T'avais un dernier mot aussi sur... faut qu'on revienne sur le récap. On va divaguer comme ça. L'OLB, donc on en a parlé tout à l'heure, qui a gagné 85-80 contre Chaland, 20e du championnat. Donc c'est une victoire assez compliquée sur le fil. Merci d'ailleurs au staff de l'OLB qui nous ont annoncé en début de saison qu'il ne fallait pas prendre beaucoup de points. Et c'est vrai, donc ils n'ont pas encaissé énormément de points. Ils n'ont pas marqué énormément, donc je ne sais pas si c'est mieux pour eux. Mais on en a parlé un petit peu avant, une défaite contre La Rochelle, surtout au match dernier. La Rochelle qui est 9e, donc on parle des playoffs. Oui. L'OLB qui doit être 6e, il me semble, les premiers à être qualifiés directement. Donc sans passer par des quarts de finale entre guillemets. Donc La Rochelle qui est 9e, donc eux se battent justement pour ces quarts de finale de play-off, qui a battu donc 84-77 l'OLB. Les prochains matchs, c'est contre Chalon-Reims, 11e du championnat, à l'extérieur, puis les joueurs de Lamine Kébé recevront Saint-Chamond, 15e du championnat. Donc ces deux matchs, on peut penser à deux victoires, mais attention, il restera encore deux autres matchs après ceci. Mais attention sur la fin de saison qui peut quand même être catastrophique parce que l'OLB ne nous rassure absolument pas.
Oui.
Un dernier mot sur le basket fauteuil.
C'est ça.
Je crois.
Donc j'étais au match du club de la SHO d'Orléans, donc le club de basket fauteuil, samedi à 16h contre Cergy Pontoise, et victoire de Orléans. Donc je voulais souligner car... je travaille dans le handisport, donc ça me tenait à cœur de parler d'eux, qui sont en National 3, donc de basket fauteuil, et qui sont à peu près au milieu de classement, donc voilà.
Un magnifique résultat.
C'est ça.
C'est très bien, il faudrait qu'on en parle un petit peu plus l'année prochaine aussi, il faudra qu'on voit. N'hésitez pas à nous dire sur Instagram, vous nous envoyez des messages sur évidemment les clubs ou les sections que vous voulez voir discuter un petit peu plus longuement. on s'attarde évidemment sur les clubs professionnels parce que bah, on n'a qu'une heure. Alors sinon, il faut qu'on voit avec Thomas, on va essayer de négocier une deuxième heure. Mais voilà, évidemment, on part du principe que c'est ce qui parle au plus de monde.
Oui, c'est sûr.
On va continuer sur notre deuxième, alors j'allais dire mauvais élève. L'OLB a gagné, donc je ne peux pas parler de mauvais élève, mais ça va être sur l'ensemble de la saison. On va parler de l'USO, l'USO qui s'est fait battre amèrement 3-0 ce week-end, alors qu'on était rempli d'espoir, même ici à Radio Campus Orléans. L'USO qui avait battu juste avant Aubagne 2-0 à l'extérieur, on s'était dit ça y est, c'est l'année, c'est la Ligue 2. On ne verra jamais parler de la Ligue 3. On n'aime pas la VAR, on n'a pas envie de la voir l'année prochaine. On en reparlera juste après de ça. 3 nuls, donc au goût amer en plus qui précédait ces matchs-là. Donc on se disait, voilà, on est sur une bonne lancée pour la fin de la saison. Et là, match à domicile, il faisait beau, c'était vendredi soir, plein soleil et une défaite 3-0 contre QRM.
Oui, franchement, un match très compliqué.
Toi qui étais au stade, oui, justement, comment tu l'as vécu?
Franchement, sur le papier, c'était le match le plus abordable sur cette fin de saison, puisqu'après...
Ouais, on en reparlera un petit peu après, des derniers matchs, mais il va rester trois autres finales.
Trois autres finales, c'est ça. Donc contre Versailles, Fleury et Dijon. Dijon, premier de national.
Qui devrait potentiellement jouer son titre contre Sochaux. C'est un match qui est à l'extérieur, en plus.
Donc ça va être très compliqué sur cette fin de saison. C'était le match à gagner pour continuer sur cette lancée après la victoire face à Aubagne.
Ouais.
Mais franchement...
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as vécu, toi?
Je l'ai vécu comme un match qui... Comme deux équipes qui n'avaient plus rien à jouer. Aucune envie sur le terrain et très peu de motivation de la part de l'USO, pardon. Qui n'avaient pas forcément... N'ont pas montré qui voulaient monter en Ligue 2, qui n'ont pas fait plaisir aux supporters qui étaient présents.
Il n'y avait pas de hargne, j'imagine.
Non, pas de hargne, pas du tout.
Pour récapituler, l'US Orléans qui avait donc un point d'écart, il y avait quatre équipes à un point, il y avait Versailles, Orléans, j'essaye de le faire de tête, Rouen qui devait être quatrième, et il y avait donc Fleury qui était troisième, donc ces quatre équipes étaient à un point. Les deux qui ont perdu, c'est Versailles et l'US Orléans, donc c'est les deux qui lâchent des points parce que les deux autres ont gagné, donc Versailles et Orléans sont à quatre points, justement du duo qui vise la troisième place, et je pense que c'est irrattrapable. Enfin, je sais pas comment tu vois les choses, toi. Surtout de ce qu'ils ont montré vendredi.
Oui, c'est ça. Franchement, avec la performance de vendredi, je vois pas comment ils peuvent aller s'imposer face aux trois gros adversaires qui restent sur cette fin de saison. Donc, on peut l'espérer, mais peut-être que l'entraîneur arrivera à motiver les joueurs sur cette fin de saison. Je sais pas.
Et tu parles justement de l'entraîneur Hervé de la Maguiore. On va l'entendre. T'as glissé un micro lors de la conférence de presse. On va l'entendre, Hervé de la Maguiore, après cette défaite, donc 3-0 à domicile contre QRM. C'était vendredi dernier. Voilà, c'est peut-être là, c'est peut-être mieux comme ça, parce qu'on a lancé Rivendell. Je m'excuse.
On n'a rien respecté. On a fait une première mi-temps pas mirobolante, mais malgré tout, on se procure des situations où on ne marque pas. Et je pense que plus le match avançait, moins on était bon. On a eu encore plus de déchets. On manque d'intensité, on manque de rapidité, de vitesse, de percussion, pour faire mal à cet adversaire qui était 14e, qui n'en espérait pas tant, je pense, ce soir. Ils ont eu trois occasions, ils marquent trois fois. Non, là, c'est très décevant.
Ils marquent trois fois, et oui, sur trois occasions, après justement aucune défaite de femme une fois qu'il était dans les buts. On le rappelle, femme qui a remplacé l'ancien gardien titulaire de l'US Orléans. Donc on s'attendait au moins un peu de buts, et voilà, c'est vrai que quand on reçoit les notifications sur le téléphone, 1-0, 2-0, 3-0, on en était au Septors avec Pierre, on en parlera un petit peu après. J'imagine que c'était très, très amer une fois au stade de la Source. Et donc Hervé de la Maguiore n'a vraiment pas mâché ses mots après le match. Je vous laisse l'entendre. Et normalement, il n'y aura pas Rivendell, il n'y aura pas de musique, ne vous inquiétez pas.
On n'a pas respecté les gens qui sont venus nous encourager. Ça me gêne. On n'a pas joué le match. Moi, je dirais que première mi-temps, sans être, comme j'ai dit, sans être mirobolant, on a quand même la possibilité de marquer. Mais en deuxième mi-temps, je pensais vraiment qu'il allait avoir quand même une réaction, en tout cas, que ça allait venir. Mais en fait, je me suis trompé. Je me suis trompé à la mi-temps. J'ai essayé de les rassurer, mais peut-être que j'aurais pas dû. Parce qu'on a été catastrophique sur la deuxième mi-temps.
Donc oui, Hervé Della Maggior qui parlait donc au micro, enfin à ton micro à la fin du match. J'imagine que oui, très déçu et tous les membres, notamment du staff. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu.
Oui, donc il est arrivé très abattu sur cette conférence de presse. On l'a senti vraiment triste à la fois pour ses joueurs et à la fois pour les supporters. Et comme il le dit, ils ont eu les occasions en première mi-temps sans en concéder. Ils n'ont pas été en danger sur cette première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps, Quevilly est arrivé avec beaucoup plus d'intention, beaucoup plus de motivation et de détermination que l'USO. Ils s'en sont bien sortis, hein, avec trois tirs cadrés et trois buts. Sur
un magnifique retourné.
Sur un magnifique retourné.
C'est toujours horrible de vivre ça, dans le sens où l'USO a jamais marqué de but comme ça cette saison. Et c'est vrai que le premier but que t'encaisses, c'est un retourné en gros au niveau de la surface.
Oui.
Donc t'es à quoi ? T'es à 15 mètres. Bah, c'est vrai que ça fait match, quoi.
Ouais.
Enfin, ça fait mal, surtout sur un match aussi important pour l'US Orléans. Donc on va parler justement des matchs qui arrivent pour l'USO. C'est un déplacement à Versailles, t'en as parlé, qui était cinquième.
Oui.
Versailles, pour avoir parce qu'on avait couvert ce match en début de saison, c'était le meilleur match de l'US Orléans au stade de la Source. C'était donc une victoire 2-0 contre Versailles. À voir, ça se trouve à l'extérieur, les Guêpes se sentiront bien mieux. On sait qu'il y a eu 2-3 soucis avec les supporters même cette saison. Petite information qu'on va donner au cours de la saison, notamment en hiver, quand les supporters de l'USO, c'était pendant la partie Coupe de France, l'USO enchaînait des mauvais résultats en national, marchait plutôt bien en Coupe de France justement avant cette élimination contre Monaco. Magnifique parcours d'ailleurs, oui. Qu'il faudra souligner à la fin de la saison. Florent Sanchez, qui malheureusement maintenant est blessé et ne rejouera pas la fin de la saison, peut-être un lien aussi,
ouais,
d'ailleurs.
On l'a senti sur ce match-là, un manque de créativité pour aller vers l'avant. Franchement, on a senti ce manque. Le manque de Florent Sanchez.
Ouais, le manque de Florent Sanchez. Guillaume Cous était sur le banc. Oui. Alors avant sa blessure, je ne sais pas si le compte QRM, il était sur le banc aussi. Non, il a dû jouer, le capitaine de l'US Orléans. Donc depuis le retour de Guillaume Cous, oui c'est ça, le retour de Guillaume Cous comparé à Florent Sanchez, c'est vrai qu'il amène quand même moins de choses.
Oui.
Et non, tout ça pour dire que Florent Sanchez disait à ses joueurs, ah, c'est bien, c'est, nos supporters sont là uniquement quand on gagne, quoi. Et donc oui. C'est vrai qu'on sentait cette amertume un petit peu entre les supporters, les joueurs, c'était toujours un petit peu compliqué. Donc on sent que ça n'a pas fonctionné cette année. Je pense que ça ne fonctionnera pas, dans le sens où l'US Orléans n'ira pas chercher cette troisième place, ou sinon il va falloir vraiment des miracles. On ne sait jamais, hein, ça reste le football. Il suffit d'une victoire contre Versailles, un bon match contre Fleury, donc c'est ça, Versailles qui est cinquième.
Oui.
Donc un déplacement extérieur contre un concurrent direct. Fleury qui est troisième, donc Fleury va venir à l'US Orléans, donc potentiellement c'est des matchs très importants.
Oui.
Et ensuite un déplacement à Dijon, Dijon, ouais, qui va potentiellement jouer son sacre ce week-end, enfin ce week-end-là, ce sera le dernier week-end de National. Donc on va bien voir, on va suivre ces matchs, bien évidemment, on va croiser les doigts pour ces joueurs de l'US Orléans. Un petit prono, t'as un prono pour cette fin de saison, tu penses qu'ils finissent combien?
Je pense qu'ils finiront à cette place-là. Je les,
ouais,
vois pas aller chercher.
Pas aller chercher plus loin.
Je vois pas aller chercher.
Une...
Je vois pas aller chercher, en tout cas, la place de barragiste.
Ouais,
ça...
deux nuls et une défaite, quoi. Pas de victoire forcément sur cette fin de saison.
Pourquoi pas une victoire à domicile contre Fleury?
Fleury, et
peut-être
donner,
avoir aussi. Faudrait que
en fait, ça va dépendre de Dijon, je pense. Oui, c'est-à-dire que ça va dépendre si Dijon est leader et assuré. C'est-à-dire que si Dijon a quelque chose à jouer, surtout que ça va être la dernière journée, ça veut dire que Dijon va vouloir défendre sa place devant son public, rameuter un petit peu tout le monde pour la Ligue 2 l'année prochaine. Donc voilà, peut-être que Dijon va jouer quelque chose où ça se trouve, ils seront déjà entre guillemets en vacances avec un titre assuré. Je pense que ça serait la meilleure solution pour l'US Orléans. On va bien voir, on va suivre en tout cas ces matchs. Mais donc, déplacement à Versailles, 5e pour la prochaine rencontre de l'US Orléans. On poursuit nos petits récaps du week-end avec le RCO qui a terminé donc premier de son groupe en National 2, ça on en avait déjà un petit peu parlé. Et donc, pour rallier les demi-finales du championnat de France de National 2, le RC Orléans devra écarter Rumi de son chemin. Dimanche 3 mai à 15h au stade de Marcel Garcin. Rappelons que pour accéder en National 1, va falloir disputer une finale potentiellement, qu'elle se disputera le 31 mai. Donc au pire, nous, il nous restera le RCO. Voilà, comme bon élève, on fera sûrement des choses exclusives avec ce club. On verra en fonction des disponibilités. Je sais que Pierre et Guillaume suivent avec impatience ces résultats. Vous allez avoir aussi le petit récap de Pierre, vous savez, sur le fameux volet Chartrain, qui on s'éloigne un petit peu d'Orléans avec Pierre, mais je crois savoir qu'ils ont gagné, donc il y a un Final Four, enfin bref, il commente pour Chartres, donc c'est pour ça, il nous en parlera un petit peu, et surtout du RCO, quitte à faire un petit aller sur ces matchs-là, aller les voir, on sait jamais. On va poursuivre donc en passant par les Septors, mais on leur fait un petit coucou parce que on en reparlera un petit peu après pour vous dire. Donc Maxime, t'as été au match contre Caen, donc
oui,
on en parlera juste après la pause. T'as eu Louis Prévost aussi,
oui,
lundi après cette magnifique victoire contre Sarrebourg. On a eu Vita aussi en interview, alors ça va durer 1 minute 30, beaucoup moins longtemps que Louis Prévost. J'en suis malheureusement désolé, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très négatif pour vous. Donc on en parlera très rapidement, mais avant ça, on va parler de nos bonnes élèves. Et heureusement qu'elles sont là, les filles de Comet, les volleyeuses orléanaises, ont conclu leur saison en beauté ce samedi 25 avril à l'Argonaute. Déjà assurées de monter en deuxième division, elles se sont adjugées le titre de championne de France d'élite poule basse, la troisième division en gros, grâce à une victoire à Tremblay 3-1, enfin face à Tremblay, c'était à l'Argonaute, c'était bien sur Orléans. L'année prochaine, c'est l'élite poule haute, donc la deuxième division française qui attend les Orléanaises. L'effectif ne devrait pas trop être chamboulé. On accueillera sûrement Camille Bachelier qui viendra à notre micro. Même si des renforts sont attendus sur certains postes, selon nos confrères de la REP. Donc on va suivre, bien évidemment, tout ça. Juste après cette pause donc, de Champion des Ondes, on va se laisser sur un petit titre Templier d'Anita. Juste après ça, on parlera donc, des Septors, un magnifique match à Comet, une victoire donc aussi juste avant contre Caen. Et on parlera aussi un petit peu de Louis Prévost, qui a été le fameux Messi, on peut dire.
C'est le héros du week-end hein, sur Orléans.
Du week-end, donc voilà, on a une petite interview de Louis Prévost, grâce à toi, Maxime, merci beaucoup, oui. pour ta première dans Champion des Ondes. Juste avant ça, donc, je viens de l'annoncer, c'est Anita sur Champion des Ondes, et on reviendra juste après, donc, pour terminer notre émission. A tout de suite. Mind fuck from the rear, astronaut, dopamine, spider the bitch, ecstasy, heart attack, morphine, silhouette, astrofox, sentiment, cup of tea, aspirin, fraudulent, dynamite, so to speak, sidekick, bossanova, sentence, injury, high five, wishing well, ward hack, fictionless, zombie crush, break it down, drive your train, no step, paranoid, parade your cards. Circle in the sand.
Champion des ondes, votre rendez-vous sportif mensuel sur Radio Campus Orléans. Une heure d'actualité, d'interview et de jeu sur le 88.3 FM, en radio numérique terrestre et sur orléans.radiocampus.org. Champion des ondes.
On est bien de retour dans Champion des ondes. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Et il nous reste encore une trentaine de minutes. De quoi allons-nous parler ? On a parlé juste avant de l'OLB, de l'USO, de ces magnifiques équipes qui sont prêtes à nous lâcher très vite, évidemment. Voilà, ils ont envie de partir en vacances. Malheureusement, juste avant, ils n'ont pas envie de gagner, ce qui est dommage. Ce qui nous dessert, en tout cas, nous, pour Champion des Ondes. Mais on va faire le maximum. On a parlé des comètes, nos filles références, entre guillemets, nos volleyeuses préférées de la région Centre-Val-de-Loire qui sont championnes de 3e division. Et maintenant, on va parler du deuxième autre bon élève. T'as pu aller assister au match contre Caen, Maxime. Raconte-nous un petit peu tout ce qui s'est passé.
Alors, quel match. Franchement, très belle ambiance au Palais des Sports. Donc, dans ce match que les Sceptors abordaient avec un esprit un peu revanchard sur le match aller, et parce qu'ils avaient été battus par 7 buts d'écart. Donc, dans ce match, qu'ils n'avaient pas oublié, ce match-là. Donc, ils se devaient de réaliser une grosse performance. En plus, leurs concurrents directs avaient gagné leur match sur cette journée-là. Donc, très important de gagner sur ce match-là.
Fallait absolument.
Franchement, c'était important, surtout pour la montée directe en Star League,
qui est l'objectif.
Qui est l'objectif et qui... avant le match, le coach avait déclaré qu'il prenait les matchs l'un après l'autre. Donc, ça confirme leur philosophie depuis le début de la saison, qui est de ne pas se voir trop beau et de ne pas faire de calcul. Contrairement au Canet, je ne sais pas si l'info ne vous a peut-être pas échappé, mais une semaine avant le match, ils avaient rajouté Road to Leaky Molly Star League sur leur maillot, ce qui n'a pas manqué de faire réagir.
Surtout les Gladiators, le groupe de supporters des Sceptors, qui avaient mis un petit message sur les réseaux sociaux.
Donc,
un match tendu.
Un match très tendu qui... Les Sceptors ont commencé avec beaucoup d'intensité dès les premières secondes en inscrivant le premier but. Et leur intensité leur a failli leur jouer des tours, hein, parce qu'ils ont eu 3 exclusions temporaires sur la première mi-temps. Mais ils ont su super bien gérer la défense 5 contre 6. On avait une très grosse ambiance au Palais des Sports. Donc l'ambiance a duré tout le match et en plus elle a été alimentée par un Noah Narcisse qui... haranguer la foule tout au long du match. Franchement, une ambiance des gros soirs, même si elle n'est pas au niveau du Comet sur le match que tu as eu vendredi. Un match plutôt serré au bout de 10 minutes, hein, 7 partout, mais les Sceptors ont su se détacher au fil du match et avant de décoller sur un contre-éclair de Lucas, 22 à 15 au moment de rentrer au vestiaire. Donc au moment de rentrer au vestiaire, les joueurs avaient rempli le premier objectif qui était de gagner ce match-là et pratiquement le second qui était de gagner avec 8 points d'écart pour dépasser leur adversaire du jour. Au retour, les joueurs n'ont pas du tout relâché l'intensité et ont continué de dérouler. Les Canets totalement écœurés par un Zoran Radic infranchissable. Franchement, sur ce soir-là, on parlera de Louis Prévost après, mais Zoran Radic, très beau match sur ce match avant vendredi. Avec 50% d'arrêt, donc 14 arrêts sur 28, il a rien encaissé pratiquement. Noah Narcisse était absolument partout en échelonnement retour défensif, interception, contre-attaque, tir avec 5 buts sur 6 tirs. Et ils étaient aussi portés par un Clément Diamani en mode patron chirurgical devant les buts avec un 100%, 7 sur 7. Et ce qui permet aux Sceptors de rester lucides tout au long du match pour réaliser leur meilleur match de leur saison. C'est Noah Narcisse qui le dit lui-même. Et donc voilà, franchement, ils peuvent aborder cette fin de saison avec un peu plus de sérénité, malgré le match un peu tendu à Comet vendredi,
on en parlera un petit peu après.
Et voilà.
Donc cette victoire 42-28,
c'est vrai que je n'ai pas précisé le résultat.
À l'extérieur. Non, c'était à domicile, c'était mercredi, il y a 2 semaines.
Ouais, il y a 2 semaines.
Donc c'était il y a 2 semaines, malheureusement, pas pu être à la rencontre. Mais oui, donc une victoire 42-28, qu'il fallait absolument engranger, entre guillemets, pour cette montée. Caen, qui est toujours quatrième.
Oui, qui était devant les Septors avant ce match-là. Comme ils ont gagné avec 14 buts d'écart, il leur en fallait 8, mais ça leur suffit pas, ils sont obligés d'écraser leur adversaire. Donc voilà, franchement, superbe rencontre. Et ça annonce que du positif sur cette fin de saison.
Et d'après ce que j'ai cru comprendre, tu as récupéré du son donc de ce match. On va écouter tout de suite donc, le premier audio après la fin de la rencontre. Qui c'est justement au début? Tu sais si c'est Louis Crous?
C'est Noah Narcisse.
Noah Narcisse,
j'ai eu un petit problème au niveau du son pour...
qui nous parle du match. On va essayer de régler tout ça, t'inquiète pas. Mais donc Noah Narcisse qui était à ton micro. Donc oui. Après cette large victoire contre un concurrent direct. Non, justement.
On a bien galéré, on s'est bien fait taper dessus physiquement et même... dans le jeu, on a été en dessous et donc on se souvient qu'on avait l'esprit un peu revanchard ce soir.
Et donc voilà, justement, il nous en parle, Noah Narcisse, de cet esprit revanchard. Comment tu l'as trouvé, toi, justement, après la rencontre?
Franchement, très bien. Il était très satisfait du match. Il était content d'avoir pris cette revanche face à Caen parce que, de ce qu'il dit lui-même, ils ont pris pas mal de coups. La victoire de Caen n'était pas forcément méritée au match aller. Donc, ils avaient hâte de battre Caen et ils sont restés motivés, concentrés sur toute la rencontre. Donc, franchement, il était très serein, très, très satisfait de la rencontre.
Et ton deuxième invité, justement, est-ce que tu peux nous en parler? Que tu as eu pendant cet après-match?
Louis Crous.
Ah oui, Louis Crous, justement, l'entraîneur. Qui nous parle justement de cette victoire contre Caen. Donc.
Je sais pas, ça nous arrive pas souvent de prendre des exclusions, mais cette semaine on avait bien taffé, on avait vraiment bossé le 6 contre 5, la défense 6 contre 5. Il la joue très bien et du coup on a pu réussir à maintenir un écart, ou pas forcément un écart au début, mais une bonne.
Donc oui, voilà, un bon différentiel de but, en tout cas entre les deux. Donc voilà, une victoire 42-28 qui venait donc juste avant ce match très important à Comet. On l'a rappelé, donc pour vous donner un petit aperçu de cette fin de saison. Pau Bilière, donc, qui a battu Sarre, on en avait parlé sur l'émission juste avant, d'un petit but, c'était chez eux contre les Septors, justement, une victoire au handball vaut 2 points, et donc Pau se situe avec 1 point de plus que Sarre, troisième qui est Ivry, on en parlera un petit peu, et donc un petit peu après, pardon, et quatrième que Caen, donc que Sarre venait de battre 42-28. Il ne fallait donc absolument pas se louper ce week-end, justement, à Comet. Et Sarre s'est fait peur, s'est fait extrêmement peur. Pourquoi? Car Sarre a été derrière tout le match. C'est simple, à la mi-temps, Sarre était derrière. À la reprise, Sarre était derrière, encore une fois. Et surtout, c'était devant plus de 8000 spectateurs. On est à 8517, il me semble, vendredi, donc à l'Arena Comet. Ils étaient tous venus également pour voir Vita donc performer en showcase. Mais juste avant ça, on a eu un gros coup de chaud de ces Septors qui n'ont tenu aucun ballon. Je vais penser notamment à Clément Damiani, hein, qui a juste tiré un petit peu partout, sauf dans les filets. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour gagner un match. Ça, je pense que tu peux, l'avouer.
Hein.
Oui, là, c'est quand on ne marque pas, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, au-delà de Clément Damiani, aucun arrêt des gardiens. Je crois que Louis Prévost, hormis Louis Prévost, justement, qui s'est démarqué, c'est Matovic qui est à 8%, et Zoran Radic, on est aux alentours de la dizaine, mais pas plus.
Donc, 10-13, je crois.
Pas plus de 13%, donc ce qui est vraiment très peu. Hein, c'est-à-dire que quand un gardien fait moins de 10% d'arrêt dans un match, bah, tu ne peux pas le gagner. Surtout qu'en face, le gardien de Sarrebourg, qui est avant-dernier du championnat, hein, c'est pour recontextualiser aussi, a fait plus de 15 arrêts, donc ce qui est quand même pas mal pour un match de handball. Et donc la rentrée de Louis Prévost, demandée par son coach, Louis Crous. C'est vrai que c'est assez rare de demander des rentrées comme ça. Et donc, Louis Prévost a pu être à ton micro, il me semble. Il a parlé assez longuement avec toi, donc oui. Justement de cette rencontre. Comment tu l'as perçu, toi, Louis Prévost, c'était ce matin?
Ce matin, donc oui, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec lui sur ce match-là. Donc j'ai senti très modeste par rapport à ses performances. Il voulait surtout mettre en avant l'équipe, qui est le collectif, car il a dit que les 8 buts, ce qui s'est passé sur le terrain, lui, il était là pour faire les arrêts, mais ce qui s'est passé sur le terrain, c'est aussi l'équipe, le collectif. Mais il était très satisfait de cette performance. Sur le moment, il n'a pas réalisé qu'il était forcément dans un grand soir. Mais maintenant, il a pris conscience, que sur ce match-là, il était infranchissable. Et il aborde cette saison avec un peu plus de sérénité. Mais il reste très concentré sur les deux matchs qui vont être très importants et qui vont être assez compliqués aussi. Donc voilà.
On en parlera justement juste après cette interview des deux derniers matchs, justement. Louis Prévost, pour vous donner un... Alors c'est simple, parce que Louis Prévost, il en donne pour tout le monde. C'est-à-dire que même les gens qui sont pas très bons en maths, grâce à Louis Prévost, tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Les pourcentages, sur 10 tirs, il a fait 7 arrêts. Il est à 70% en 15 minutes, donc les Septors perdaient de 7 buts. Et donc, alors 7 buts au handball, c'est quand même assez énorme,
oui, énorme,
très ouais. Conséquent. Et donc, il y avait 15 minutes pour faire renverser la vapeur. Louis Prévost est rentré, 15 ou 25? Je crois que c'est 25.
14 minutes.
Oh, c'est 15. Oh là là, c'est 15, je me suis fait avoir. 15 minutes, justement, à Louis Prévost pour renverser la situation, sachant que c'était vraiment l'entrée du désespoir.
Oui, enfin,
nous,
c'était le...
Dans Comet, on n'y croyait vraiment pas. Et donc, Louis Prévost rentre et c'est ça, 7 arrêts, dont le dernier, hein, alors qu'il y avait littéralement 30-29. Donc, si ça rebours marqué, c'était la douche froide pour les Septors. Et donc, Louis Prévost a fait cette dernière arrêt, surtout, qui permet aux Septors de l'emporter. On l'écoute, c'était à ton micro, donc ce matin au Palais des Sports. Donc Louis Prévost, forcément très heureux de ce match et de sa très bonne performance.
Incroyable. Ouais, incroyable, parce que ce soit sur le scénario du match où on est derrière quasiment tout le match et on revient dans les dernières minutes et on passe devant à gagner le match. Et puis au niveau de l'ambiance. L'ambiance qui était complètement incroyable, où le public s'est totalement enflammé. Enfin, à vivre, c'était magnifique, quoi.
À chaud, tu n'as pas su vraiment expliquer pourquoi les 45 premières minutes étaient compliquées. Est-ce que là, tu saurais nous dire pourquoi, ou tu as eu le temps d'en parler avec le coach ou entre...
Ouais, là, après, c'est plutôt cet après-midi qu'on va analyser le match à froid. Après, ouais, faut aussi féliciter l'équipe de Sarrebourg, qui a fait le match qu'il fallait pour nous faire totalement déjouer. Nous, on n'a pas su trouver beaucoup de solutions en attaque. Et puis après, on a buté contre un très très bon gardien aussi, qui a fait sa partie. Donc ouais, non, en fait, Sarrebourg a fait leur partie. Et nous, on n'a fait pas un très bon match, mais on s'est accroché quand même au mental, on a été la chercher. Mais ouais, quelles sont les raisons? Je sais pas, il y avait peut-être un mélange de plein de facteurs qui ont fait que... Voilà.
On peut imaginer un peu de pression par rapport au...
Il y a la salle qui est magnifique, mais effectivement, on veut des fois tellement vouloir bien faire, on joue pas assez libéré, et du coup, c'est pas notre jeu, et donc on va faire des conneries. Et puis il y a une équipe aussi en face qui nous fait mal, donc c'est un peu tous ces facteurs là, quoi.
Tu rentres dans le match au moment des 8 buts d'affilée. Comment tu te sens quand tu rentres dans ce match-là? Tu te sens bien au moment de rentrer
Ouais, je me sens bien. Alors après, c'est comme toujours, on rentre sur le terrain. Tant que le match, la 60e minute n'a pas retenti, tout peut se passer. Donc je rentre avec l'idée de donner mon maximum pour aider les gars qui sont devant moi. Et après, effectivement, c'est... Le moment de ma rentrée correspond un peu à un basculement dans le match où tous les mecs redéfendent fort. On trouve des solutions en attaque, on marque des buts faciles. Et en fait, tout se conjugue. Donc c'est pas forcément uniquement ma rentrée, parce que faut aussi souligner le travail de tous les mecs qui se sont donnés pendant 45 minutes où ça a été dur. Et vraiment, ça a tout changé.
Et comment tu expliques ce moment de bascule dans ce match-là? Quel était le déclic pour vous, pour l'équipe?
Je pense pas qu'il y ait vraiment un déclic. C'est surtout, voilà, bah, on a vu le score, on était loin derrière. Et en fait, c'est l'idée de se dire, bah, on n'a plus rien à perdre. Donc, quitte à, bah, à perdre, bah, on va tout donner, on va se libérer. Et puis, on va essayer de chercher quelque chose. Et puis, en fait, on s'enflamme. Et à l'inverse, l'équipe adverse ressent ça. La pression du public qui a joué un rôle énorme et qui, eux, bah, ont commencé à avoir la pression, à lâcher quelques ballons faciles. Et donc, bah, voilà, on arrive à retourner la situation comme ça.
Je veux savoir comment ça se passe au niveau des rotations pour les gardiens. C'est vous qui décidez entre vous trois ou c'est le coach qui...
Non, c'est plutôt les coachs. Les coachs, là, sur les matchs à domicile, on a le coach gardien. Donc après, bah, c'est les ressentis. Voilà. Après, nous, donc on tourne à trois, mais il y a une superbe entente à trois. Et on, voilà, on est toujours à aider le copain qui est sur le terrain et on veut qu'il réalise la meilleure performance possible. Après, des fois, bah, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des matchs un peu moins bien, des matchs qui sont très bien. Et donc, bah, on est là pour s'entraider si jamais... Bah, le copain, il est moins bon, voilà, on va tout donner. Et puis, donc c'est pour ça aussi que c'est le match des trois gardiens et de tout le monde au final ce week-end dernier.
Tu réalises ton premier arrêt et après tu commences à les enchaîner. Est-ce que tu sens à ce moment-là que tu es dans un grand soir, dans ce contexte-là, à Comet devant 8500 personnes, ou tu réalises après le match?
Je réalise après le match en fait. Là, j'étais vraiment focalisé sur le score, revenir au score. Et ouais, c'était surtout ça en fait. Et donc, ouais, j'ai pas du tout pensé en fait à ma performance. Je pensais surtout à la performance de l'équipe et de dire allez chercher cette victoire et surtout devant le public. Enfin, voilà, je voulais pas que la fête soit gâchée au Comet.
À la dernière seconde, il y a 30-29, tu prends un dernier tir que tu arrêtes. À ce moment-là, tu offres la victoire au Receptor. Après, tu t'effondres au sol et tout le monde vient sur toi pour te féliciter. Comment tu te sens à ce moment-là?
Alors, les émotions à ce moment-là, difficiles à décrire. En fait, c'est que je pense surtout à la perte de balle que je fais 20 secondes avant. Très mauvais choix de ma part. Donc voilà, là dans ma tête, il s'est dit, putain Louis, t'as pas le droit de faire une merde, enfin pardon pour le terme, mais ouais, de sortir ça. Et en fait, voilà, quand il y a ce dernier tir, bah, tous les mecs se battent encore une fois pour vraiment qu'il n'y ait aucun tir. Et là, il y a ce dernier tir, bah, un peu de désespoir, et donc voilà... Je fais l'arrêt derrière, mais ouais, c'est vraiment le soulagement de dire, ouf, on est... vraiment passé à côté de la catastrophe. Quoi.
Une très belle interview, en tout cas, Maxime, de Louis Prévost, donc, qui revient sur ses arrêts, notamment, hein, du coup, le 7 au total, qui permet donc d'offrir la victoire aux Septors. Et pourquoi cette victoire est importante? Bah, alors, déjà parce qu'il y a deux matchs, t'en as parlé, qui vont venir, mais donc il fallait absolument pas perdre, parce que, ou même faire un match nul, parce que Pau, Ivry et Caen ont gagné. Donc voilà, oui, c'est quatre ça. Clubs qui vont jouer pour la première place. Pourquoi la première place est si importante au handball en deuxième division? Parce que bah, justement, c'est la seule qui permet d'être qualifié en Star League, en première division. Et donc, tout se joue à une victoire, à un nul, sachant que Saran a battu chacun des deux équipes, chacune des quatre équipes, enfin des trois autres équipes, pardon. Oui. Ils sont quatre pour la montée, dont Saran, donc les trois autres. Et donc, justement, cette victoire en cas de nul, même, c'est-à-dire que si. Ivry et Caen ont le même nombre de points avec Saran, c'est Saran qui finit premier parce qu'ils les ont tous battus. Donc même un nul ne suffisait pas, il fallait absolument la victoire, et donc ces sept arrêts ont permis à Septors de l'emporter. Il parle de cette dernière possession. Il faut savoir qu'à Comet, c'était vraiment c'était l'angoisse totale. On est passé du feu à se dire les Septors sont passés à plus 1, il reste 50 secondes après le moins 7 ou 8 qu'on a vécu, il ne peut plus rien leur arriver. Et donc c'est vrai qu'il y a cette dernière possession, Sarbourg vient très haut faire un pressing, Louis est obligé de donner la balle parce que sinon ça fait faute, et donc Sarbourg reprend la possession. Il tente donc une longue passe qui est intercepté, mais bon, le pauvre, il n'avait pas non plus 15 autres 1000 choix à faire. Et donc, il y a cette dernière arrêt et tous ses coéquipiers qui viennent sur lui. Il faut rappeler que Louis Prévost est donc troisième gardien, qui prendra sa retraite en fin de saison, donc c'est aussi un très bel hommage pour lui. Juste après ce match, on a donc eu le droit au showcase de Vita, et on a pu l'interviewer. C'est donc une interview exclusive parce que seul Radio Campus a pu avoir Vita à son micro. L'artiste est venu performer devant les 8500 spectateurs. C'était la dernière artiste de la saison à Comet, et c'est la première artiste féminine qui est venue justement après un match des Septors.
Bonsoir Vita, vous êtes ici ce soir à Comet pour réaliser un showcase. Racontez-nous un petit peu ce qui vous a motivé à venir à Orléans.
Je suis ravie. Moi, déjà en concert, c'est une ville que j'adore. Je suis venue plein de fois sur ma tournée récemment, très récemment. C'était une des plus belles dates de ma tournée. Donc voilà, le hand, c'est un sport que j'ai beaucoup pratiqué. J'ai joué en ligue, j'adorais ce sport-là, bien sûr féminin, mais je suis ravie d'être là pour cette finale. En plus, ils ont gagné, je ne sais pas si on peut le dire. Donc voilà, on m'a dit que je serais la première artiste féminine à venir chanter pour la finale. J'ai trouvé ça super honorant, donc je suis très contente d'être là.
Et justement, ces showcases, ils se développent de plus en plus après des matchs de sport, notamment. Comment vous retrouvez ça, vous, en tant qu'artiste ?
J'adore l'énergie parce que je suis très sportive, j'adore le sport, je trouve que c'est hyper important. Moi, j'éduque mes gosses là-dedans. Et je trouve que de mélanger le sport et la musique, on le fait beaucoup aux US, beaucoup moins en France. Pourtant, c'est les mêmes énergies, les publics sont chaud, c'est très jeune, c'est très familial. Donc je trouve que c'est vraiment tout est fait pour matcher. Et donc moi je suis ravie quand on m'invite sur ce type d'événement de venir chanter.
Surtout ce soir, après cette victoire, est-ce que vous auriez un petit dernier mot justement pour ces spectateurs venus en nombre?
Bravo déjà aux Septors et à tous les gens qui les soutiennent. Moi je suis ravie d'être là et j'espère que ça va être la folie pendant le show aussi.
Merci beaucoup. Merci.
Voilà, donc c'était Vita justement avant son showcase. Elle parlait de finale, alors évidemment, il y en a deux, trois qui ont rigolé, mais elle n'avait pas si tort au final, parce que pourquoi cette ambiance un petit peu de finale? Parce qu'il fallait absolument gagner. Les prochains matchs des Septors, ils vont arriver très vite. Donc après ces deux victoires à domicile, il y aura un déplacement à Massy qui est 13e, donc le championnat s'arrête sur 15 équipes, donc 13e, on est plutôt sur la fin du championnat que sur le début. Puis une réception d'Angers, Angers qui est pour le coup 15e, dernier donc. Ça sera le 7 mai au Palais des Sports. On va essayer de faire un événement spécial. Voilà, on ne peut pas trop en dire plus, mais on va s'arrêter là-dessus pour cette émission et passer la main juste après à Chris de Tentaculation. Pourquoi ce match contre Angers est très important au Palais des Sports? Donc au-delà sur la mainmise que je pense Saran va avoir de ce match-là, ce sera le deuxième contre le dernier. C'est surtout qu'il y a Ivry qui va recevoir Pau. Ivry qui est troisième et qui va donc recevoir Pau qui est premier. En cas de victoire ou de nul d'Ivry, donc qui sera à domicile, eh bien Saran pourrait devenir leader si de son côté il gagne contre Angers. Donc voilà pourquoi le match est extrêmement important. La saison va se jouer justement ce 7 mai au Palais des Sports d'Orléans. J'ai peur que ça soit déjà plein, donc si vous voulez prendre des places, regardez. Mais je pense que ça sera quasiment plein. En tout cas, nous, on va essayer de vous couvrir au mieux l'événement. Il y aura une émission juste après, donc qui va se dérouler. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Mais voilà, donc le match, c'est le 7 mai. Ça sera sûrement le 8 d'ailleurs, parce que le 7, c'est un jeudi, ce qui me paraît bizarre. Faudra qu'on vérifie.
C'est le 7 mai.
C'est le 7 mai.
J'ai
donc
revu
c'est un
la
jeudi.
Date tout à l'heure.
Oui, c'est pour quoi. Ça. C'est ce que je suis en train de me dire. En fait, je regarde sur mon calendrier et je me dis c'est bizarre que ça soit le 7 mai. Ça se trouve, ça sera le...
C'est
bon,
vrai.
On verra.
À suivre.
Ouais, affaire à suivre. En tout cas, on vous tiendra au courant. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs sur les réseaux sociaux des clubs. Hein. Mais donc, voilà, je pensais naturellement que c'était vendredi parce que tous les matchs de Pro League se déroulent le vendredi. Et donc, il y aura une émission le 11 mai. En tout cas, sauvegardez bien la date. Souvent, on sera très joyeux avec des joueurs, les supporters, ce sera la fête. Soit on va devoir parler de travail parce que ça sera les playoffs et donc il restera des matchs très importants. N'hésitez pas donc à prendre vos places si jamais vous voulez suivre ce match. Nous, on se donne rendez-vous donc au 11 mai, c'est dans deux semaines. Maxime, j'espère que tu seras là, mais normalement, je sais qu'il n'y a pas trop de soucis.
C'est ça, normalement, je serai là.
J'espère que tu as bien aimé cette première émission, en tout cas
merci
pour toi.
Merci à toi pour cette invitation.
Merci pour justement cette interview pour Louis Prévost. Oui. Donc,
dernier mot sur cette interview, vous pouvez la retrouver peut-être sur la Rédac Pop en entière, parce que là, on vous a passé un extrait de...
donc quelques minutes. 6 minutes et donc elle en dure
13 minutes, 30,
donc voilà, on est à peu près sur vous en avez eu la moitié, tu reviens notamment un petit peu sur son parcours, donc très intéressant pour la rédac pop, donc oui. À retrouver au courant de la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines, en tout cas ça sera avant le 11, donc vous inquiétez pas, vous pouvez suivre la page, suivez-nous Radio Campus sur Radio Campus Orléans sur les réseaux, et donc je laisse la main à Chris donc pour son émission. Nous, on se donne rendez-vous donc dans 2 semaines. À très vite sur Radio Campus Orléans. C'était Champion des Ondes. Tout de suite, un extrait de The Craftsman Club, Expect to Crash. À très bientôt sur Radio Campus Orléans.
Radio Campus 88.3 et Agisson présente.
Une oreille va tomber!